Aristote, La Grande Morale, Livre 1er, Chapitre 10. Sommaire. La vertu dépend de l'homme. Elle est volontaire ainsi que le vice. Erreur de Socrate. Les législations, l'estime et le mépris des hommes prouvent que la vertu dépend de notre libre arbitre. Autre preuve à l'appui de cette théorie. L'homme, comme le reste de la nature, a la force de produire certaines choses et certains actes. Ces actes changent, et avec eux changent aussi les principes par lesquels l'homme les produit, la volonté, la détermination. La liberté dans l'homme est incontestable. Paragraphe 1. Puisque nous parlons de la vertu, il est bon d'examiner, après ce qui précède, si la vertu peut ou ne peut pas s'acquérir, ou bien si, comme le prétendait Socrate, il ne dépend pas de nous d'être bon ou mauvais. Demandez, disait-il, à un homme, quel qu'il soit, s'il veut être bon ou méchant, et vous verrez certainement qu'il n'est personne qui préfère jamais être vicieux. Faites la même épreuve pour le courage, pour la lâcheté et pour toutes les autres vertus, et vous aurez toujours le même résultat. Paragraphe 2. Socrate en concluait que s'il y a des méchants, ils ne sont évidemment méchants que malgré eux. Et, par suite aussi, il n'était pas moins évident pour lui que les hommes sont vertueux sans la moindre intervention de leur part. Paragraphe 3. Ce système, quoi qu'en dise Socrate, n'est pas vrai. Et pourquoi donc alors le législateur défend-il de commettre de mauvaises actions et ordonne-t-il d'en faire de bonnes et de vertueuses? Pourquoi impose-t-il des peines à celui qui commet des actions mauvaises ou qui n'accomplit pas les bonnes qu'il commande? Le législateur serait bien absurde de nous ordonner dans ses lois des choses qui ne dépendraient pas de nous. Paragraphe 4. Mais loin de là, il est certain qu'il dépend des hommes d'être bons ou mauvais. Et ce qui le prouve encore, ce sont les louanges et le mépris dont les actions humaines sont l'objet. La louange s'adresse à la vertu. Le mépris s'adresse au vice. Mais ni l'un ni l'autre ne pourrait s'appliquer à des actes involontaires. Donc, évidemment, à ce point de vue encore, il faut qu'il dépende de nous de faire le bien et de faire le mal. Paragraphe 5. On a fait encore une espèce de comparaison pour prouver que l'homme n'est pas libre. Pourquoi, dit-on, quand nous sommes malades ou que nous sommes laids, ne nous blâme-t-on pas? Mais ceci est une erreur, et nous blâmons vivement les gens quand nous croyons que c'est eux-mêmes qui sont cause de leur maladie ou de leur laideur, parce que nous pensons que même en cela, il y a quelque chose de volontaire. Mais le volontaire, la liberté, s'applique surtout au vice et à la vertu. Paragraphe 6. En voici une preuve encore plus frappante. Toute chose dans la nature est capable d'engendrer une substance pareille à ce qu'elle est elle-même. Témoin, les animaux et les végétaux qui, les uns et les autres, sont capables de se reproduire. Les choses se reproduisent grâce à certains principes, comme l'arbre se reproduit de la graine, qui en est le principe en quelque sorte. Mais ce qui vient des principes et après eux, est aussi absolument de même. Et tels sont les principes, tels sont par la suite les choses qui en sortent. Paragraphe 7. On peut voir ceci encore plus clairement dans les choses de géométrie. Là, en effet, certains principes étant posés, les conséquences qui viennent des principes sont tout à fait comme les principes eux-mêmes. Et par exemple, si les trois angles d'un triangle sont égaux à deux droits et ceux d'un carré égaux à quatre droits, du moment que les propriétés du triangle viendraient à changer, celles du quadrilatère changeraient de même coup. Car ce sont là des propositions qui sont réciproques. Et si le carré n'avait pas ses angles égaux à quatre angles droits, le triangle n'aurait pas non plus les siens égaux à deux. Paragraphe 8. Ceci se répète également, et avec une similitude parfaite pour ce qui regarde l'homme. L'homme aussi peut engendrer de la substance, et c'est d'après certains principes et d'après certains actes qu'il fait que l'homme peut produire les choses qu'il produit. Comment d'ailleurs en serait-il autrement? Aucun des êtres inanimés ne peut agir au sens vrai de ce mot, et même, parmi les êtres animés, aucun n'agit réellement excepté l'homme. Donc, évidemment, l'homme produit des actes d'un certain genre. Paragraphe 9. Mais comme les actes de l'homme changent sans cesse sous nos yeux, et que nous ne faisons jamais identiquement les mêmes choses, comme, d'un autre côté, les actes produits par nous le sont en vertu de certains principes, il est clair que, dès que les actes changent, les principes de ces actes changent aussi. Comme nous le disions tout à l'heure, dans cette comparaison empruntée de la géométrie. Paragraphe 10. Or, le principe de l'action bonne ou mauvaise, c'est la détermination, c'est la volonté, et tout ce qui en nous agit d'après la raison. Mais certainement, la raison, la volonté qui inspire nos actes changent aussi, puisque nous changeons nos actes de notre pleine volonté. Donc, le principe et la détermination changent tout comme eux. C'est-à-dire que ce changement est parfaitement volontaire. Donc, évidemment, enfin, il ne dépend que de nous d'être bons ou mauvais. Paragraphe 11. Mais, dira-t-on peut-être, puisqu'il ne dépend que de moi d'être bon, je serai, si je le veux, le meilleur des hommes. Non. Cela n'est pas possible comme on se l'imagine. Et pourquoi? C'est que cette perfection n'a pas lieu même pour le corps. On a beau vouloir soigner son corps, on n'aura pas pour cela le plus beau corps du monde. On n'aura pas... Car non seulement il faut des soins assidus, mais il faut de plus que la nature nous ait donné un corps parfaitement beau. Et parfaitement sain. Avec des soins, le corps sera certainement beaucoup mieux, mais il ne sera pas pour cela le mieux organisé entre tous les autres. Paragraphe 12. Il faut admettre qu'il en est de même aussi pour l'âme. Pour être le plus vertueux des hommes, il ne suffira pas de vouloir si la nature ne nous y aide pas. Mais néanmoins, on en sera beaucoup meilleur par suite de cette noble résolution. Chapitre 11. Sommaire. Théorie de la liberté dans l'homme. Définition de l'acte volontaire et libre. Trois espèces d'appétit. Le plaisir est la suite de tout ce qu'on fait par désir. La douleur, de tout ce qu'on fait par nécessité. Objection à cette théorie. L'intempérance, dit-on, est involontaire. Réfutation de cette théorie. Paragraphe 1. Après avoir démontré que la vertu dépend de nous, il est nécessaire de traiter du libre arbitre et d'expliquer ce qu'est l'acte libre et volontaire. Car en fait de vertu, c'est le volontaire et libre arbitre qui est le point vraiment essentiel. Le mot de volontaire désigne, absolument parlant, tout ce que nous faisons sans y être contraints par une nécessité quelconque. mais cette définition exige peut-être qu'on l'éclaircisse par des explications. Paragraphe 2. Le mobile qui nous fait agir, c'est d'une manière toute générale l'appétit. On peut distinguer trois espèces d'appétit: le désir, la colère, la volonté. Recherchons en premier lieu si l'action que nous fait faire le désir est volontaire ou involontaire. Il n'est pas possible qu'elle soit involontaire. Pourquoi cela et d'où cela vient-il? Tout ce que nous faisons autrement que par notre libre volonté, nous ne le faisons que par une nécessité qui nous domine. Or, il y a toujours une certaine douleur à la suite de tout ce qu'on fait par nécessité. Le plaisir, au contraire, est une conséquence de ce qu'on fait par désir. Ainsi donc, les choses qui sont faites par désir ne sauraient être involontaires, du moins en ce sens. Et elles sont certainement volontaires. Paragraphe 3. Il est vrai qu'à cette théorie, on pourrait en opposer une autre, qu'on fait pour expliquer l'intempérance. Personne, dit-on, ne fait le mal de son plein gré en sachant que c'est le mal. Et pourtant, ajoute-t-on, l'intempérant incapable de se dominer, tout en sachant bien que ce qu'il fait est mal, ne le fait pas moins, mais c'est qu'il suit l'impulsion de son désir. Il n'agit donc pas de sa libre volonté, et il est contraint par une nécessité fatale. Paragraphe 4. Mais nous réfuterons cette objection par le même raisonnement que plus haut. Non, l'acte que provoque le désir n'est point un acte de nécessité, car le plaisir est la suite du désir, et ce qui se fait par plaisir n'est jamais d'une nécessité inévitable. Mais on pourrait prouver encore autrement que le débauché agit de sa pleine volonté, car apparemment on ne niera pas que les hommes injustes sont injustes volontairement. Or, les débauchés sont injustes et commettent une injustice, et par conséquent, le débauché, qui n'est plus maître de lui, fait volontairement ses actes d'intempérance. Chapitre 12. Sommaire. Suite de la réfutation précédente. Autre objection pour prouver que l'intempérance est involontaire. Cette objection s'applique aux actes de la colère et à ceux de la volonté, comme à ceux du désir. Réfutation de cette seconde objection. Le mépris qu'on a pour l'intempérant prouve bien qu'il agit volontairement. Paragraphe 1. Mais il est encore une autre objection qu'on oppose à notre théorie pour démontrer que l'intempérance n'est pas volontaire. L'homme tempérant, dit-on, fait de sa propre volonté les actes de tempérance, car on l'estime pour sa vertu, et jamais l'estime ne s'attache qu'à des actes volontaires. Mais, si ce qu'on fait suivant le désir naturel est volontaire, tout ce qu'on fait contre ce désir est involontaire. Or, l'homme tempérant agit contre le désir. Il s'ensuit que le tempérant n'est pas volontairement tempérant. Mais évidemment, c'est là une erreur. Donc, ce qui est selon le désir n'est pas non plus volontaire. Paragraphe 2. On applique encore un système tout pareil aux actes qui se rapportent à la colère. Car les mêmes raisonnements qui valent pour le désir valent aussi pour elle. Et il forme une égale difficulté, puisqu'on peut être tempérant et intempérant en fait de colère. Paragraphe 3. La dernière des espèces que nous avons distinguées parmi les appétits, c'était la volonté, et il nous reste pour elle à rechercher si elle est libre. Mais les débauchés et les intempérants veulent aussi, jusqu'à un certain point, les actes coupables vers lesquels ils se précipitent. Et l'on peut dire qu'ainsi, les débauchés font le mal en le voulant. Mais personne, dira-t-on encore, ne fait volontairement le mal en sachant que c'est du mal. Or, le débauché qui sait bien que ce qu'il fait est mal, n'en agit pas moins avec volonté. Donc, il n'est pas libre. Et la volonté ne l'est pas davantage. Paragraphe 4. Avec ce beau raisonnement, on supprime radicalement la débauche et le débauché. Si l'intempérant n'est pas libre, il n'est pas répréhensible. Mais l'intempérant est répréhensible. Donc, il agit volontairement, donc la volonté est libre. Du reste, comme il y a dans tout ceci des raisonnements qui semblent contradictoires, il est bon d'expliquer plus clairement ce que c'est que l'acte volontaire et libre. Chapitre 13. Sommaire. Définition de la violence ou force. Elle peut agir sur les êtres animés tout aussi bien que sur les êtres inanimés. Il y a violence toutes les fois que la cause qui fait agir est extérieure aux êtres qu'elle meut. Il n'y a plus violence quand la cause est dans les êtres eux-mêmes. Paragraphe 1. Expliquons d'abord ce qu'on entend par force ou violence et par nécessité. La violence se trouve même dans les êtres inanimés. Ainsi, on peut voir qu'un lieu spécial a été assigné à chacune des choses inanimées. Et par exemple, le lieu du feu est en haut et celui de la terre est en bas. Mais toutefois, l'on peut contraindre, par une sorte de violence, la pierre à monter et le feu à descendre. Paragraphe 2. On peut, à plus forte raison, violenter l'être animé. Et par exemple, on peut par la force détourner un cheval de la ligne droite où il court, pour lui faire changer son mouvement en revenant sur ses pas. Ainsi donc, toutes les fois qu'il existe, en dehors des êtres, une cause qui leur fait faire ce qui est contre leur nature ou contre leur volonté, on dit que ces êtres font par force ce qu'ils font. Au contraire, toutes les fois que les êtres ont en eux-mêmes la cause qui les meut, nous ne disons jamais qu'ils sont forcés de faire ce qu'ils font. Paragraphe 3. Autrement, le débauché, qui ne se maîtrise pas, réclamera et il soutiendra qu'il n'est pas responsable de son vice, car il prétendra qu'il ne commet sa faute que parce qu'il y est forcé par la passion et le désir. Que ce soit donc là, pour nous, la définition de la violence et de la contrainte. Il y a violence toutes les fois que la cause qui oblige les êtres à faire ce qu'ils font leur est extérieure. Il n'y a plus violence du moment que la cause est intérieure et dans les êtres mêmes qui agissent. Chapitre 14. Sommaire. Définition des idées de nécessité et de nécessaire. Exemples divers. Paragraphe 1. Quant à ce qui concerne les idées de nécessité et de nécessaire, il faut dire qu'on ne peut pas appliquer l'idée de nécessaire ni de toute façon, ni partout. Par exemple, elle ne s'applique jamais à rien de tout ce que nous faisons par plaisir, car il serait absurde de dire qu'on a été nécessairement forcé par le plaisir à séduire la femme de son ami. Paragraphe 2. Ainsi, L'idée de la nécessité n'est pas applicable indistinctement à toutes les choses. Elle ne l'est jamais que dans celles qui nous sont extérieures. Et par exemple, il y a eu nécessité pour quelqu'un de subir un certain mal afin d'éviter un mal plus grand qui menaçait sa fortune. C'est encore ainsi que je puis dire « Je suis forcé nécessairement de me rendre en toute hâte à ma campagne, car si je tardais, je n'y trouverais plus que des récoltes perdues. » Voilà des cas où l'on peut dire qu'il y a nécessité. Chapitre 15. Sommaire. De l'acte volontaire. C'est l'intention qui en fait toute l'importance. Exemple de la femme qui empoisonne son amant dans un filtre en voulant s'en faire aimer. Paragraphe 1. L'acte volontaire ne pouvant consister dans une impulsion aveugle, il reste que l'acte involontaire est ce qui a lieu et par nécessité et par force. On peut ajouter comme troisième condition que c'est ce qui n'a pas lieu avec réflexion et pensée. Les faits nous montrent bien la vérité de ceci. Quand un homme en frappe, ou même en tue un autre, ou bien quand il commet quelque acte pareil sans aucune préméditation, on dit qu'il l'a fait contre son gré. Et cela prouve que l'on place toujours la volonté dans une pensée préalable. Paragraphe 2. C'est ainsi qu'on raconte qu'une femme ayant donné un filtre à boire à son amant, et l'homme étant mort de ce filtre, elle fut absoute par devant l'aréopage où elle avait comparu, et le tribunal l'acquitta sur ce simple motif qu'elle n'avait pas agi avec préméditation. Elle avait donné ce breuvage par affection, seulement elle s'était trompée. L'acte ne parut pas volontaire parce qu'elle n'avait pas donné le filtre, avec l'intention de tuer celui qui devait le boire. Ainsi donc, on le voit, le volontaire rentre dans ce qui se fait avec intention. Chapitre 16. Sommaire. La préférence réfléchie ne se confond ni avec l'appétit, ni avec la volonté, ni même avec la pensée. Elle est la combinaison de plusieurs facultés. Définition de la préférence, elle ne s'applique qu'aux moyens et non au but. Elle suppose une délibération antérieure de l'intelligence. L'acte volontaire doit se distinguer de l'acte de préférence et de préméditation. Exemple de quelques législateurs qui ont fait cette distinction. Il n'y a de préférence possible que dans les choses où l'homme agit. La préférence n'a pas de place dans la science. Elle a lieu dans l'action parce que l'homme peut s'y tromper en deux sens, ou par excès ou par défaut. Paragraphe 1. Il nous reste encore à examiner si la préférence réfléchie qui détermine notre choix doit ou non passer pour un appétit. L'appétit se retrouve dans les autres animaux comme dans l'homme. Mais la préférence qui choisit n'y apparaît pas. C'est que la préférence est toujours accompagnée de la raison et que la raison n'est accordée à aucun autre animal. Ainsi donc, on pourrait conclure que la préférence n'est pas un appétit. Paragraphe 2. Mais du moins, est-elle la volonté? Ou bien n'est-elle même pas davantage la volonté? La volonté peut s'appliquer même aux choses impossibles. Et par exemple, nous voudrions être immortels. Mais nous ne le préférons pas par un choix réfléchi. En outre, la préférence ne s'applique pas au but lui-même qu'on poursuit, mais aux moyens qui peuvent y mener. Et par exemple, On ne peut pas dire qu'on préfère la santé, mais on préfère, entre les choses, celle qui la procure, la promenade, l'exercice, etc. Et ce que nous voulons, c'est la fin même, car nous voulons la santé. Paragraphe 3. Cette distinction nous indique évidemment la différence profonde de la volonté et de la préférence réfléchie qui décide notre choix. La préférence, comme son nom même l'exprime assez clairement, signifie que nous préférons telle chose à telle autre, et, par exemple, le meilleur au moins bon. Lorsque nous comparons le moins bon au meilleur, et que nous avons la liberté de choix, c'est en ce sens spécial que l'on peut dire proprement qu'il y a préférence. Paragraphe 4. Ainsi, la préférence ne se confond ni avec l'appétit ni avec la volonté. Mais la pensée est-elle au fond la préférence? Ou bien la préférence n'est-elle pas non plus la pensée? Nous pensons et nous imaginons une foule de choses dans notre pensée. Mais ce que nous pensons peut-il être aussi l'objet de notre préférence et de notre choix? Ou ne le peut-il pas? Ainsi, par exemple, nous pensons souvent aux événements qui se passent chez les Indiens. Pouvons-nous y appliquer notre préférence comme nous y appliquons notre pensée? Par là, on voit que la préférence ne se confond pas du tout avec la pensée. Paragraphe 5. Puis donc que la préférence ne se rapporte isolément à aucune des facultés de l'esprit que nous venons d'énumérer, et que ce sont là tous les phénomènes de l'âme, il faut nécessairement que la préférence soit la combinaison de quelques-unes de ces facultés prises deux à deux. Mais comme la préférence ou le choix s'applique, ainsi que je viens de le dire, non pas à la fin même qu'on poursuit, mais seulement aux moyens qui y mènent, comme en outre elle ne s'applique qu'à des choses qui nous sont possibles, et dans les cas où l'on peut se poser la question de savoir si telle ou telle chose doit être choisie, il est clair qu'il faut préalablement penser à ces choses et délibérer sur elles, et que c'est seulement après que l'un des deux parties nous a semblé préférable à l'autre, toute réflexion faite, qu'il se produit en nous une certaine impulsion qui nous porte à faire la chose. Alors, en agissant ainsi, nous paraissons agir par préférence. Paragraphe 6. Si donc la préférence est une sorte d'appétit et de désir, précédée et accompagnée d'une pensée réfléchie, l'acte volontaire n'est pas un acte de préférence. En effet, il est une foule d'actes que nous faisons de notre plein gré avant d'y avoir pensé et réfléchi. Nous nous asseyons, nous nous levons et nous accomplissons mille autres actions volontaires sans y penser le moins du monde. Tandis que, d'après ce qu'on vient de voir, tout acte qui se fait par préférence est toujours accompagné de pensée. Paragraphe 7. Ainsi donc, l'acte volontaire n'est pas un acte de préférence, mais l'acte de préférence est toujours volontaire. Et si nous préférons faire telle ou telle chose après mûre délibération, nous la faisons de notre pleine et entière volonté. On a même vu des législateurs, en petit nombre il est vrai, distinguer profondément entre l'acte volontaire et l'acte prémédité, qu'ils plaçaient dans une toute autre classe, en établissant de moindres peines pour les actes de volonté que pour ceux de préméditation. Paragraphe 8. La préférence ne peut donc avoir lieu que dans les choses que l'homme peut faire et dans les cas où il dépend de nous d'agir ou de ne pas agir, de faire de telle façon ou de telle autre. En un mot, dans toutes les choses où l'on peut savoir le pourquoi de ce que l'on fait. Paragraphe 9. Mais le pourquoi, la cause, n'est pas du tout simple. En géométrie, quand on dit que le quadrilatère a ses quatre angles égaux à quatre angles droits, et qu'on demande pourquoi, on répond « c'est que le triangle a ses trois angles égaux à deux droits ». Dans les choses de cette espèce, en remontant à un principe déterminé, on en tire le pourquoi. Mais dans les cas où il faut agir et où il y a possibilité de choix et de préférence, il n'en est plus ainsi, car aucune préférence n'est déterminée. Mais si l'on demande « pourquoi avez-vous fait cela ?», on ne peut que répondre « parce que je ne pouvais pas faire autrement » ou bien « parce que c'était mieux ainsi ». C'est uniquement d'après les circonstances qu'on choisit le parti qui semble le meilleur, et ce sont elles qui nous décident. Paragraphe 10. Aussi, dans les choses de ce genre, la délibération est possible pour savoir comment il faut agir. Mais il en est tout autrement dans les choses que l'on sait de science certaine. On ne va pas délibérer pour savoir comment il faut écrire le nom d'Archiclès, parce que l'orthographe en est déterminée et qu'on sait positivement comment il faut l'écrire. Si l'on fait une faute, elle n'est pas dans l'esprit, elle est uniquement dans l'acte même d'écrire. C'est que dans tous les cas où il ne peut y avoir d'erreur possible pour l'esprit, on ne délibère pas. Et c'est seulement dans les choses où la manière dont elles doivent être n'est pas déterminée exactement qu'il y a possibilité d'erreur. Paragraphe 11. Mais l'indétermination se trouve dans toutes les choses que l'homme peut faire et dans toutes celles où la faute peut être double et en deux sens différents. Nous nous trompons donc dans les choses d'action et par suite également dans les choses qui se rapportent aux vertus. Tout en visant à la vertu, nous nous égarons dans les chemins qui nous sont naturels et ordinaires. La faute, alors, peut se trouver également et dans l'excès et dans le défaut, et nous pouvons être entraînés à l'un et à l'autre de ces extrêmes par le plaisir ou par la douleur. Le plaisir nous pousse à faire mal, et la douleur nous porte à fuir le devoir et le bien. Chapitre 17. Sommaire. Suite de la théorie précédente. La sensibilité ne délibère pas parce que tous ses actes sont spéciaux et déterminés. De l'objet que poursuit la vertu, c'est le but lui-même et non les moyens qui peuvent y mener. Paragraphe 1. J'ajoute que la pensée ne ressemble pas du tout à la sensation. La vue ne peut absolument rien faire que de voir. L'ouïe ne peut faire autre chose que d'entendre. Aussi, ne délibérons-nous pas pour savoir s'il faut entendre ou s'il faut voir par l'ouïe. Quant à la pensée, elle est fort différente. Elle peut faire telle chose ou telle autre chose. Et voilà comment c'est dans la pensée qu'il y a délibération. Paragraphe 2. On peut se tromper dans le choix des biens qui ne sont pas directement le but qu'on poursuit. Car pour le but lui-même, tout le monde est parfaitement d'accord. C'est-à-dire, par exemple, que tout le monde convient que la santé est un bien. Mais on peut se tromper sur les moyens qui mènent à ce but. Et ainsi, l'on se demande s'il est bon pour la santé de manger ou de ne pas manger telle ou telle chose. C'est surtout le plaisir ou la peine qui, dans ces cas, nous font commettre des méprises et des fautes, parce que nous fuyons celle-ci et que nous recherchons celui-là. Paragraphe 3. Maintenant qu'on sait en quoi et comment l'erreur et la faute sont possibles, il nous faut dire à quoi s'attache et vise la vertu. Est-ce au but lui-même? Est-ce seulement aux choses qui peuvent y mener? Et par exemple, est-ce au bien lui-même qu'on vise, ou simplement aux choses qui contribuent au bien? Paragraphe 4. Mais d'abord, que se passe-t-il dans la science à cet égard? Ainsi, est-ce à la science de l'architecture qu'il appartient de bien définir le but où l'on tend en faisant une construction? Ou lui appartient-il seulement de connaître les moyens qui mènent à ce but? Si ce but est bien posé, à savoir de faire une bonne et solide maison, ce ne sera point un autre que l'architecte qui trouvera et procurera tout ce qu'il faut pour atteindre ce but. Une même observation pourrait être faite par toutes les autres sciences. Paragraphe 5. Il semble qu'il en devrait être de même aussi pour la vertu, c'est-à-dire que son véritable objet serait de s'occuper de la fin même qu'elle doit toujours se proposer, aussi bonne que possible, plutôt que des moyens qui conduisent à cette fin. Il n'y a que l'homme vertueux qui saura procurer et trouver ce qui constitue cette fin et ce qu'il faut pour y arriver. Il est donc tout naturel que la vertu se propose cette fin qui lui est propre, dans toutes ces choses où le principe du meilleur est à la fois et ce qui peut l'accomplir et ce qui peut se la proposer. Par suite, il n'y a rien de mieux au monde que la vertu, car c'est pour elle que tout le reste se fait, et c'est elle qui en contient le principe. Paragraphe 6. Les choses qui contribuent à la fin qu'on se propose semblent davantage n'être faites que pour cette fin. Au contraire, la fin elle-même représente en quelque sorte un principe en vue duquel se font chacune des autres choses, dans la mesure même où chacune d'elles s'y rapporte. Donc, évidemment, aussi pour la vertu, puisqu'elle est le principe et la cause la meilleure, elle vise au but lui-même plutôt qu'aux choses secondaires qui y mènent. Chapitre 18. Sommaire. La véritable fin de la vertu, c'est le bien. Mais il faut entendre le bien pratique et réel. On ne peut juger les hommes que sur les actes et non sur les intentions. Théorie des milieux dans les passions. Paragraphe 1. La fin véritable de la vertu, c'est le bien. Et la vertu vise plus à cette fin qu'aux choses qui la doivent produire, attendu que ces choses mêmes font partie de la vertu. Quelque vraie que soit cette théorie, si l'on voulait la généraliser, elle pourrait devenir absurde. Par exemple, en peinture, on pourrait être un excellent copiste, sans cependant mériter la moindre louange, à moins que l'on se proposât exclusivement pour but de faire des copies parfaites. Mais on peut dire absolument que le propre de la vertu, c'est de se proposer toujours le bien. Paragraphe 2. Mais pourquoi, dira-t-on peut-être, avez-vous établi tout à l'heure que l'acte vaut mieux encore que la vertu elle-même? Et pourquoi, maintenant, accordez-vous à la vertu comme sa condition la plus belle, non pas ce qui produit l'acte, mais ce dans quoi il n'y a pas même d'acte possible? Paragraphe 3. Sans doute, et maintenant même, nous le disons encore comme nous le disions plus haut, oui, l'acte est meilleur que la simple faculté. Les autres hommes, en observant un homme vertueux, ne le peuvent juger que par ses actions, parce qu'il est impossible de voir directement l'intention que chacun peut avoir. Si nous pouvions toujours, dans les pensées de nos semblables, connaître où ils en sont relativement au bien, l'homme vertueux nous paraîtrait tout ce qu'il est, sans même avoir besoin d'agir. Mais puisque nous avons énuméré, en comptant les passions, quelques-uns des milieux qui constituent la vertu, il nous faut dire quelles sont les passions auxquelles ces milieux s'appliquent. Chapitre 19. Sommaire. Du courage. Il se rapporte à la peur ou au sang-froid dans certains cas. Portrait de l'homme courageux. On ne peut pas dire que les soldats soient courageux. C'est par habitude qu'ils bravent le danger et avec certaines conditions. Erreur de Socrate, qui du courage fait une science. On n'est pas courageux quand la fermeté que l'on montre vient de l'ignorance du danger ou d'une passion qui emporte. Du courage social. Homère, cité. Ce n'est pas encore le vrai courage que celui qui vient de l'espérance ou du désir. Définition du véritable courage. Paragraphe 1. D'abord, le courage se rapportant au sang-froid et à la peur, il est bon de savoir à quelles espèces de peur et à quelles espèces de sang-froid il se rapporte. Quelqu'un qui craint de perdre sa fortune, est-il un lâche pour cela seul? Et pour garder toute sa fermeté dans une perte d'argent, est-il un homme de courage ou bien ne l'est-il pas? Et de même encore, suffit-il que l'on ait peur ou qu'on soit plein de fermeté en ce qui regarde la maladie pour dire que dans un cas on soit lâche et que dans l'autre on soit courageux? On le sent donc, le courage ne consiste ni dans les craintes, ni dans les sang-froids de ce genre. Paragraphe 2. Il ne consiste pas davantage à braver le tonnerre et les éclairs et tous les autres phénomènes redoutables qui sont au-dessus de la puissance humaine. Les braver, ce n'est pas être courageux, c'est être fou. Ainsi, le vrai courage ne se manifeste que relativement aux choses dans lesquelles la peur ou le sang-froid sont permises à l'homme. Et j'entends par là les choses que la plupart des hommes ou tous les hommes redoutent. Et celui qui reste ferme dans ses rencontres est un homme de courage. Paragraphe 3. Ceci étant posé, comme on peut être courageux d'une foule de manières, il faut savoir d'abord ce que c'est au juste que d'être courageux. Il y a des gens courageux par habitude, comme le sont les soldats, car les soldats savent par expérience que dans tel lieu, dans tel moment, dans telle situation, il n'y a absolument aucun danger à courir. L'homme, qui sait qu'il a toutes ses garanties et qui par ce motif attend les ennemis de pied ferme, n'est pas courageux pour cela. Car si toutes les conditions requises ne se réunissent point, il n'est plus capable d'attendre l'ennemi. Paragraphe 4. Il ne faut donc pas appeler courageux ceux qui ne le sont que par habitude et par expérience. Aussi, Socrate n'a-t-il pas eu raison de dire que le courage est une science, car la science ne devient science qu'en acquérant l'expérience par l'habitude. Mais pour nous, nous n'appelons pas courageux ceux qui ne supportent les périls que par suite de leur expérience, et eux-mêmes ne se donneraient pas non plus ce titre. Par conséquent, le courage n'est pas une science. Paragraphe 5. On peut encore être courageux précisément par le contraire de l'expérience. Quand on ne sait point par expérience personnelle ce qui peut arriver, on demeure à l'abri de la crainte à cause de son inexpérience. Certainement, on ne peut pas davantage prendre ces gens-là pour des gens courageux. Paragraphe 6. Il en est d'autres aussi qui paraissent courageux par l'effet de la passion qui les anime. Et par exemple, les amoureux, les enthousiastes, etc. Mais ce ne sont pas là non plus des gens de courage. Qu'on leur enlève en effet la passion dont ils sont dominés, et ils cessent sur le champ d'être courageux. Mais l'homme de vrai courage doit être toujours courageux. Paragraphe 7. C'est là ce qui fait qu'on ne peut pas attribuer le courage aux animaux. Et par exemple, qu'on ne peut pas dire que les sangliers sont courageux parce qu'ils se défendent contre les coups qui les excitent en les blessant. L'homme courageux ne dit pas non plus être courageux sous le coup de la passion. Paragraphe 8. Il est une autre espèce de courage qu'on pourrait appeler social et politique. On voit bien des gens affronter les dangers pour n'avoir point à rougir devant leurs concitoyens. Et ils nous font ainsi l'effet d'avoir du courage. Je puis invoquer le témoignage d'Homère quand il fait dire à Hector « Polydamas d'abord m'accablera d'injures. » Et le brave Hector voit là-dedans un motif pour combattre. Ce n'est pas encore là pour nous le courage véritable. Et la même définition ne conviendrait pas pour chacun de ces genres de courage. Toutes les fois qu'en supprimant un certain motif qui fait agir, le courage ne subsiste plus, on ne peut pas dire que celui qui agit par ce motif soit courageux réellement. Et par exemple, retrancher le respect humain qui fait que le guerrier combat courageusement, il cesse à l'instant d'être courageux. Paragraphe 9. Enfin, d'autres gens semblent avoir du courage par l'espérance et l'attente de quelques biens à venir. Ceux-là ne sont pas courageux non plus, puisqu'il serait absurde d'appeler courageux des gens qui ne le seraient que d'une certaine façon et dans certains cas donnés. Donc, rien de tout cela n'est précisément le courage. Paragraphe 10. Quel est donc l'homme vraiment courageux d'une manière générale? Et quel caractère doit-il avoir? Pour le dire en un mot, l'homme courageux est celui qui ne l'est pour aucun des motifs qu'on vient de citer, mais qui l'est parce qu'il est bien de l'être et qui est courageux toujours, soit que quelqu'un le regarde, soit que personne ne le voit. Ceci ne veut pas dire que le courage se produise absolument sans passion et sans motif, mais il faut que l'impulsion vienne de la raison, qui montre que c'est là le bien et le devoir. Ainsi, l'homme qui, par raison et pour remplir son devoir, marche au danger, sans rien craindre de ce danger, celui-là est courageux. Et le courage exige précisément ces conditions. Paragraphe 11. Mais on ne doit pas comprendre que l'homme courageux est sans crainte, en ce sens qu'il serait accidentellement hors d'état de sentir la moindre émotion de peur. Ce n'est pas être courageux que de ne craindre absolument rien du tout, puisqu'à ce compte on irait jusqu'à trouver que la pierre et les choses inanimées sont courageuses. Pour avoir vraiment du courage, il faut savoir craindre le danger et savoir le supporter. Car si on le supporte sans le craindre, ce n'est plus là être courageux. Paragraphe 12. En outre, ainsi que nous l'avons établi plus haut, en divisant les espèces de courage, le courage ne s'applique pas à toutes les craintes, à tous les dangers. Il ne s'applique directement qu'à ceux qui peuvent menacer la vie. De plus, ce n'est pas dans un temps quelconque ni dans un cas quelconque que peut se produire le vrai courage. C'est dans ceux où les craintes et les dangers sont proches. Est-on courageux, par exemple, pour ne pas redouter un danger qui ne doit venir que dans 10 ans? Trop souvent, on est plein d'assurance parce qu'on est loin du péril, et l'on se meurt de peur quand on en est tout près. Telle est l'idée que nous nous faisons du courage et de l'homme vraiment courageux. Chapitre 20. Sommaire. De la tempérance. Définition. C'est le milieu entre la licence et l'insensibilité dans les plaisirs des deux sens, du toucher et du goût exclusivement. L'homme seul peut être tempérant parce qu'il est le seul être qui soit doué de raison. Paragraphe 1. La tempérance est un milieu entre la débauche et l'insensibilité en fait de plaisir. La tempérance, comme en général toute autre vertu, est une excellente disposition morale, et une excellente disposition ne peut regarder que l'excellent. Or, en ce genre, l'excellent, c'est le milieu entre l'excès et le défaut. Les deux extrêmes contraires nous rendent également blâmables, et nous péchons aussi bien dans l'un que dans l'autre. Puis donc, que le meilleur est le milieu, la tempérance tiendra le milieu entre la débauche et l'insensibilité, et elle sera le moyen terme de ces extrêmes. Paragraphe 2. Mais si la tempérance se rapporte aux plaisirs et aux peines, elle ne s'applique pas à toutes les peines ni à tous les plaisirs. Elle ne se produit pas dans tous les cas indistinctement où les uns et les autres se produisent. Ainsi, pour prendre du plaisir à voir un tableau, une statue ou tel autre objet analogue, on ne méritera pas d'être appelé intempérant ou débauché. De même, non plus, pour les plaisirs de l'ouïe ou de l'odorat. Mais on peut l'être pour les plaisirs du toucher ou du goût. Paragraphe 3. Un homme ne sera pas tempérant, même à l'égard de ses plaisirs particuliers, parce qu'il n'éprouvera pas d'émotion sous l'influence d'aucun d'eux, car alors il ne serait qu'insensible. Mais il sera tempérant si, tout en les sentant, il ne se laisse pas maîtriser par eux, au point de négliger, pour en jouir avec excès, tous ses devoirs. Et la vraie tempérance sera de rester sage et modéré uniquement par ce motif qu'il est bien de l'être. Paragraphe 4. Car, si l'on s'abstient de tout excès dans ses plaisirs, soit par crainte, soit par tel autre sentiment analogue, ce n'est plus de la tempérance. Aussi, excepté l'homme, ne disons-nous jamais des autres animaux qu'ils sont tempérants, car ils ne possèdent pas la raison qui pourrait leur servir à distinguer et à choisir ce qui est bon. Et toute vertu s'applique au bien et ne concerne que lui. En résumé, on peut dire que la tempérance se rapporte aux plaisirs et aux peines, mais seulement à ceux que peuvent nous donner les deux sens du toucher et du goût. Chapitre 21. Sommaire. De la douceur. C'est le milieu entre l'irascibilité et l'indifférence qui reste impassible. Les deux extrêmes sont également blâmables. Il n'y a que le milieu qui mérite nos louanges. Paragraphe 1. À la suite de ceci, nous pouvons parler de la douceur et montrer ce qu'elle est et en quoi elle consiste. Disons d'abord que la douceur est un milieu entre l'emportement qui se met toujours en colère et l'impassibilité qui ne peut jamais s'y mettre. Nous avons déjà vu que toutes les vertus en général sont des milieux. Cette théorie pourrait être facilement prouvée s'il en était besoin. Et l'on n'aurait qu'à remarquer qu'en toute chose, le meilleur est dans le milieu, que la vertu est la disposition la meilleure, et que le milieu étant le meilleur, la vertu est par conséquent le milieu. Paragraphe 2. L'exactitude de cette observation sera d'autant plus évidente qu'on la vérifiera sur chaque cas particulier. Ainsi, l'homme irascible est celui qui s'emporte contre tout le monde dans tous les cas et au-delà des bornes. C'est une disposition très blâmable, car il ne convient pas de s'emporter ni contre tout le monde, ni pour toute chose, ni de toute façon, ni toujours, pas plus qu'il ne convient davantage de ne jamais s'emporter, ni pour quoi que ce soit, ni contre personne. Cet excès d'impassibilité est blâmable au même degré. Paragraphe 3. Mais si l'on mérite le blâme pour être dans l'excès et dans le défaut, celui qui s'est resté dans le vrai milieu est à la fois doux et louable. On ne saurait approuver le caractère qui éprouve trop vivement le sentiment de la colère, ni le caractère qui l'éprouve trop peu. Mais celui-là est doux véritablement, qui sait se tenir dans une juste mesure entre ces deux extrêmes. Ainsi, la douceur est le milieu entre les passions que nous venons de décrire. Chapitre 22. Sommaire. De la libéralité, elle est le milieu entre la prodigalité et l'avarice. Ces deux excès sont blâmables. Le milieu seul est digne de louange. Espèce diverse de l'avarice. L'homme libéral ne doit pas s'occuper d'amasser de l'argent et de faire fortune. Paragraphe 1. La libéralité est le milieu entre la prodigalité et l'avarice, deux passions qui s'appliquent l'une et l'autre à l'argent. Le prodigue est celui qui dépense dans des choses où il ne faut pas dépenser, plus qu'il ne faut et quand il ne faut pas. L'avare, tout au contraire du prodigue, est celui qui ne dépense pas là où il faut dépenser, ni ce qu'il faut, ni quand il faut. Paragraphe 2. Tous les deux sont également blâmables. L'un est dans l'extrême par défaut, l'autre est dans l'extrême par excès. L'homme vraiment libéral, puisqu'il mérite la louange, tient le milieu entre les deux autres. Et le libéral, c'est celui qui dépense aux choses où il faut dépenser, ce qu'il faut et quand il faut. Paragraphe 3. Il y a d'ailleurs plus d'une espèce d'avarice, et l'on peut distinguer, parmi les gens dénués de toute libéralité, ceux que nous appelons des cuistres, des ladres à couper un grain d'anis en deux, des sordides, ne reculant jamais devant les lucres les plus honteux, des chiches relevant à tout propos leurs moindres dépenses. Toutes ces nuances se rangent sous la dénomination générale de l'avarice, car le mal a une foule d'espèces, tandis que le bien n'en a jamais qu'une. Et par exemple, la santé est simple et la maladie a mille formes. De même, la vertu est simple aussi, et le vice est multiple. Et ainsi, tous les gens que nous venons de signaler sont indistinctement blâmables à l'endroit de l'argent. Paragraphe 4. Mais appartient-il à l'homme libéral d'acquérir et d'amasser de l'argent? Ou doit-il négliger ce soin? Les autres vertus sont dans le même cas que celles-ci. Et ce n'est point, par exemple, au courage de fabriquer des armes. C'est l'objet d'une autre science. Mais c'est au courage de les prendre pour s'en servir. De même encore pour la tempérance et pour les autres vertus, sans exception. Ce n'est donc pas non plus à la libéralité d'acquérir de l'argent. Ce soin regarde la science de la richesse ou crématistique. Chapitre 23. Sommaire. De la grandeur d'âme, elle est le milieu entre l'insolence et la bassesse. le magnanime, n'ambitionne que l'estime et la considération des honnêtes gens. Définition du magnanime. Paragraphe 1. La grandeur d'âme est une sorte de milieu entre l'insolence et la bassesse. Elle se rapporte à l'honneur et au déshonneur. Mais ce n'est pas à l'honneur dont dispose le vulgaire, c'est à l'honneur dont les honnêtes gens sont les seuls juges. Et c'est bien plus de celui-là qu'elle se préoccupe. Les hommes de bien qui connaissent les choses et les apprécient à leur juste valeur accorderont leur estime à qui la mérite. Et le magnanime préférera toujours l'estime éclairée d'un cœur qui sait combien le sien est vraiment estimable. Mais la magnanimité ne recherche pas tout honneur sans distinction. Elle ne recherchera que l'honneur le plus haut et n'ambitionnera que ce bien assez précieux pour qu'on puisse l'élever à la hauteur d'un principe. Paragraphe 2. Les hommes méprisables et vicieux, qui, se jugeant eux-mêmes dignes des plus grands honneurs, mesurent à leur propre opinion la considération qu'ils exigent, sont ce qu'on peut appeler des insolents. Ceux, au contraire, qui exigent moins qu'il ne leur revient en bonne justice, montrent une âme basse. Paragraphe 3. Entre ces deux extrêmes, celui qui tient le milieu est celui qui n'exige pas pour lui moins d'honneur qu'il ne lui en revient, ni plus qu'il n'en mérite, et qui ne veut pas les accaparer tous pour lui seul. Celui-là est le magnanime. Et je le répète, évidemment, la grandeur d'âme est le milieu entre l'insolence et la bassesse. Chapitre 24. Sommaire. De la magnificence, elle est un lieu entre l'ostentation et la mesquinerie. Elle se rapporte à la manière de dépenser convenablement selon les temps, les lieux et les choses. Le faste, la mesquinerie, définition de la véritable magnificence. Paragraphe 1. La magnificence est le milieu entre l'ostentation et la mesquinerie. Elle se rapporte aux dépenses qu'un homme haut placé doit savoir faire. Celui qui dépense quand il ne faut pas est fastueux et prodigue. Et par exemple, quand on traite de simples convives qui apportent leur réco au repas comme on traiterait des invités de noces, on montre de l'ostentation et du faste. Car l'ostentation consiste à faire parade de sa fortune dans les occasions où l'on ne devrait pas la montrer. La mesquinerie, qui est le défaut contraire du faste, consiste à ne pas savoir dépenser grandement quand il convient. Ou bien, quand on se résout à faire de ces grandes dépenses, par exemple à l'occasion d'une noce ou d'une cérémonie publique, à ne pas savoir faire la défense convenable et à la marchander avec parcimonie. C'est là ce qu'on appelle être mesquin. Paragraphe 3. On comprend assez que la magnificence est bien telle que nous la décrivons, rien que par le nom même qu'elle porte. Et c'est parce qu'elle fait dans l'occasion les choses en grand, comme il convient de les faire, qu'elle reçoit à bon droit le nom de magnificence. Ainsi, la magnificence, puisqu'elle est louable, est un certain milieu entre l'excès et le défaut dans les dépenses, selon les circonstances où il convient de les faire. Paragraphe 4. On veut aussi quelquefois distinguer plusieurs sortes de magnificence. Et par exemple, on dit en parlant de quelqu'un « il marchait magnifiquement ». Mais ces acceptions diverses de l'idée de magnificence ne reposent comme celle-ci que sur des métaphores. Et ce mot n'est plus alors employé dans son sens spécial. À proprement parler, il n'y a pas dans ces cas-là de magnificence. Il n'y en a que dans les limites où nous l'avons dit. Chapitre 25. Sommaire. De l'indignation qu'inspire le sentiment de la justice. Elle tient le milieu entre l'envie, qui se désole du bonheur des autres, et la malveillance, qui se réjouit de leurs maux. Paragraphe 1. La juste indignation, en grec « némésis », est le milieu entre l'envie, qui se désole du bonheur des autres, et la joie malveillante qui est heureuse de leurs maux. Toutes les deux sont des sentiments blâmables. Et l'homme seul qui s'indigne à juste titre doit recevoir notre louange. La juste indignation est la douleur qu'on éprouve de voir le succès échoir à quelqu'un qui ne le mérite pas. Et le cœur qui s'indigne à juste titre est celui qui peut ressentir des peines de ce genre. Réciproquement aussi, il s'indigne de voir souffrir quelqu'un qui ne mérite pas son malheur. Voilà ce que c'est à peu près que la juste indignation. Et tel est le caractère de celui qui s'indigne justement. Paragraphe 2. L'envieux lui est contraire en ce sens qu'il est toujours indistinctement peiné de voir la prospérité d'un autre. Que cet autre, d'ailleurs, la mérite ou ne la mérite point. De même que l'envieux, le malveillant qui se réjouit du mal sera toujours heureux du malheur des autres, que ce malheur soit ou ne soit pas mérité. L'homme, qui ne s'indigne qu'au nom de la justice, ne leur ressemble ni à l'un ni à l'autre. Il tient le milieu entre ces deux extrêmes.